Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Je suis ce soir avec Virginie à la technique, que je remercie de sa présence souriante, parce que moi, je la vois, vous l'entendez, mais moi, je la vois derrière la vitre du studio. Je suis aussi autour de la table du studio avec Cécile Montmirail. Bonsoir Cécile.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous les auditeurs.
Et je suis, ce qui ne vous étonnera pas, comme si souvent, dans le passé, avec notre politologue distingué, Pierre-Henri. Bonsoir Pierre-Henri.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, donc, nous allons peut-être commencer par...
En attendant notre premier intervenant qui ne saurait tarder.
Nous attendons Yann Bali.
Eh bien, qui est même tout prêt, visiblement.
Donc, on me dit qu'il est au métro. Allô Yann?
Oui, est-ce que vous m'entendez?
On vous entend, Yann, parfaitement.
Alors, je suis simplement en train de régler un petit problème technique pour qu'on puisse, en plus de m'entendre, me voir, et
non.
Ça sera fait...
Ah oui, dans... vous voir, vous, oui.
Ce sera fait dans quelques secondes.
Même si tous les auditeurs n'ont pas la radio en couleur, comme disait Serge de Beketch.
Voilà, et normalement, là, vous devez me voir.
Tout
Très
à
bien.
Fait.
Très bien. Alors, cher Yann, nous allons vous entendre pour nous parler du Liban où vous étiez. Vous avez pris très vaillamment la continuité de Chrétienté Solidarité au Liban. Ça peut être aussi dans d'autres pays, mais surtout, là, c'est au Liban qu'il y a affaire. Et vous avez passé 13 jours au Liban. Alors, racontez-nous d'emblée, d'abord, quelles sont vos premières impressions?
Écoutez, on arrive dans un pays en guerre, donc déjà dès l'arrivée à l'aéroport de Beyrouth, on se rend compte que les choses ne sont pas tout à fait normales, puisqu'il n'y a qu'une ou deux compagnies aériennes qui desservent actuellement, il y a 15 jours, il y a quelques vols qui sont ouverts depuis, mais l'aéroport est très vide. Et puis, voilà, on nous parle tout de suite de la guerre, de ce qui se passe au sud, des bombardements. Mais cela dit, les Libanais sont hélas habitués, et il y a tout de même une certaine fraîcheur, un certain climat beaucoup plus détendu et beaucoup plus agréable au Liban qu'en France, malgré la guerre. Voilà. Donc ça, c'est pour Beyrouth, évidemment.
L'aéroport, oui, ne se ressemble pas. Il n'y a pas eu de bombardements collatéraux, si je puis dire.
Alors, l'aéroport n'a pas été touché, ni en 2024, ni cette année. En revanche, il y a eu des bombardements à proximité de l'aéroport, puisque vous le savez mieux que moi, Bernard, la banlieue sud, celle qui accueille de nombreuses populations chiites et au sein desquelles se trouvent un certain nombre d'éléments du Hezbollah, se trouve à proximité immédiate de l'aéroport. Donc, ces endroits-là ont été bombardés. Donc, il y a eu des interruptions de vol à certains moments, au plus fort des bombardements. Mais depuis un mois, les choses sont rentrées dans l'ordre. Malgré cela, seule la compagnie libanaise et quelques compagnies émiraties et des royaumes du Moyen-Orient desservent l'aéroport de Beyrouth.
Alors, Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 13 jours essentiellement? Racontez-nous.
Alors, l'objectif premier était de rendre visite à toutes les œuvres que Chrétienté Solidarité soutient au Liban, notamment au sud Liban, puisque en 2025, Chrétienté Solidarité a ouvert une campagne de 50 parrainages scolaires que nous avons rapidement pourvus. Et donc, l'objectif était d'aller visiter une partie des familles et de nos filleuls, parce que tous ne sont pas visibles, hélas. Et donc, c'est ce que j'ai fait en me rendant à Marjayoun. Marjayoun, qui est juste à la limite des zones de combat et de la fameuse zone jaune, c'est-à-dire le no man's land imposé par l'État d'Israël. Et donc là, j'ai rencontré effectivement un certain nombre de nos filleuls, un certain nombre de leurs familles, l'équipe dirigeante et les enseignants du Collège des 5 heures de Marjayoun. C'était très impressionnant parce que j'ai rencontré des gens qui sont vraiment marqués par la guerre, à un ou deux kilomètres de là. Certains lycéens et lycéennes que j'ai rencontrés sont du village de Kleia, que les auditeurs connaissent sans doute. C'est là où le 9 mars dernier, le curé, le père Pierre Rai, a été tué par un éclat de missile israélien. Et donc, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient des jeunes qui étaient dans sa paroisse, qui le connaissaient très bien. Certains qui l'ont vu agoniser quand il a été emporté par l'ambulance. C'était très, très poignant, très émouvant, mais en même temps, une très grande dignité. Une très grande dignité de ces jeunes de 16 ou 18 ans qui ont une expérience de la vie pas très amusante, puisque depuis 2020, ils vivent de confinement sanitaire, en guerre, et beaucoup de travail. Leur travail se passe essentiellement maintenant en visioconférence, comme je le fais actuellement avec vous. Mais ils sont très marqués, mais en même temps, ils ont une volonté inébranlable de rester. Et je dois dire que les chrétiens du Sud font l'admiration de tous les chrétiens du Liban, parce qu'ils tiennent bon. Je pense notamment à ceux de Ain Ebel, de Debel, de Rmesh, qui sont restés, ils sont au cœur de la zone de combat, hein. Ils sont restés parce qu'ils veulent rester sur leur terre et ils savent très bien que s'ils partent, il y a de fortes chances qu'ils ne puissent plus revenir parce que la guerre aura rasé leur village. Et ces villages-là tiennent difficilement, ils sont ravitaillés par l'armée libanaise, par la FINUL, par des ONG qui sont nos ONG amis, comme l'Œuvre d'Orient ou comme Nawaj de Fouad Abou Nader. Ils tiennent, ils font que leur village reste, ne soit en très grande partie épargné par la guerre par rapport à d'autres villages, et ils montrent un exemple à tous les chrétiens du Liban. L'exemple de la fidélité à la terre, de l'enracinement, on reste et le Liban sans les chrétiens, ça n'existe pas. Voilà le message qu'ils transmettent à tout le Liban et qu'ils nous transmettent également à nous, Français et Occidentaux.
Mais vous n'êtes pas, ce que je crois savoir, resté que dans le Sud. Vous êtes allé aussi dans la Bekaa et dans le Nord Liban.
Oui, en fait, entre mon voyage dans le Sud auquel on ne peut accéder que par la plaine de la Bekaa, donc c'est-à-dire la partie sud de la plaine de la Bekaa, parce que toute la zone côtière de Saïda et Tyr est trop dangereuse en rapport avec les opérations militaires israéliennes et la guerre entre le Hezbollah et Israël. Et je suis également allé donc au nord de la plaine de la Bekaa, à Ras Baalbek et Ka, donc ce qui fait qu'en fait j'ai traversé toute la plaine de la Bekaa du sud au nord en deux fois. Et donc là je suis allé voir l'enclave chrétienne qui se situe à la frontière syrienne, donc qui va du monastère Saint-Marhoun, le monastère historique qui se trouve à Hermel, et donc Ka et Ras Baalbek. Et là donc on a une enclave chrétienne qui a vécu pendant quelques semaines dans la crainte d'une intervention syrienne pendant très longtemps. Pendant quelques jours, quelques semaines, on a parlé d'une éventuelle intervention des troupes du nouveau régime syrien qui a des comptes à régler avec le Hezbollah, mais tous mes interlocuteurs politiques, militaires, locaux m'ont dit que c'était une fiction et qu'il n'y avait jamais eu aucune possibilité, probabilité que les troupes de M. al-Shara interviennent au Liban. Il n'en a pas les moyens, il n'en a pas l'argent et surtout, il est peut-être un peu plus malin que d'autres. Il sait très bien que ça pourrait lui retomber dessus. Et voilà. Donc, ces populations chrétiennes du nord de la Bekaa ont été relativement épargnées cette année par les frappes. Ils ont été également l'année dernière, hein, ils n'ont pas été frappés directement, les villages chrétiens n'ont pas été frappés directement, mais là c'était beaucoup plus éloigné, même s'ils sont entourés par des villages chiites qui sont régulièrement l'objet de cibles et de frappes de l'aviation et de l'armée israélienne. Alors eux, ils tiennent bon, c'est difficile, comme dans tout le Liban, la grande difficulté, ce sont les revenus, l'inflation, ça ne change pas, la guerre les a aggravés. Et surtout, la difficulté pour les familles de payer les frais de scolarité. Parce que vous savez qu'au Liban, on paye 100% des frais de scolarité, entre 500 euros pour un équivalent de CP, jusqu'à 1000 ou 1200 euros pour un lycéen de première ou de terminale. Et donc, tout ce séjour m'a fait comprendre que notre œuvre de chrétienté solidaire, l'œuvre des parrainages que nous menons, que vous avez initié, Bernard, dans les années 80 et que nous continuons de mener, eh bien, est essentielle et est aujourd'hui plus que jamais importante pour soutenir les familles chrétiennes du Liban, parce que la difficulté à payer les scolarités est majeure aujourd'hui. Donc, il faut vraiment que les auditeurs qui nous écoutent aillent sur le site de Chrétienté Solidarité s'ils ne le sont pas déjà et qu'ils deviennent parrains, qu'ils prennent un parrainage pour parrainer un petit chrétien libanais. C'est une aide importante.
Quel est le rôle du patriarche aujourd'hui? Est-ce que vous avez ressenti son influence? Je parle du patriarche Reich que vous connaissez, que j'ai rencontré. Est-ce que vous avez noté quelque chose par rapport à son influence?
Son influence est toujours importante, hein. Quand le patriarche parle, on l'écoute, même s'il y a eu ces dernières semaines, à la fin de mon séjour, des caricatures, notamment venant de médias du Hezbollah, qui l'ont caricaturé, qui l'ont moqué. C'était la première fois que ça arrivait au Liban, et ça a suscité une indignation générale de toute la classe politique libanaise. Le patriarche déçoit un peu nos amis chrétiens, même s'ils le respectent beaucoup, parce qu'il est assez timoré, hein, c'est discret dans ce qui se passe, même s'il il a toujours des propos de rassemblement, de soutien, mais je sais que les chrétiens, et notamment les chrétiens du sud, sont un peu déçus de ne pas l'avoir vu. Il a fait une visite, hein, il y a trois semaines dans le sud, mais ils auraient préféré le voir plus, notamment pour soutenir ces villages qui tiennent bon et qui résistent. Heureusement, le nonce apostolique au Liban, le représentant du Vatican au Liban, lui est très très actif. Il est allé des dizaines de fois dans le sud, prenant la tête de convois humanitaires pour apporter des vivres, des médicaments et pour soutenir les chrétiens du sud.
Pierre-Henri,
Pierre-Henri, micro, bonsoir. Yann, d'après vos constatations, quelle est l'opinion, on va dire, moyenne des chrétiens du Liban sur le gouvernement libanais ou ce qui en tient lieu?
Oui, alors, Les chrétiens sont fatigués de voir leur État pris en otage par des factions, notamment celle du Hezbollah. Ce qu'on entend régulièrement, et donc 90% des conversations que l'on a avec des chrétiens, que ce soit du nord au sud, c'est que on veut bien souffrir encore un petit peu, on veut bien supporter encore cette guerre, mais que cette fois-ci, ce soit la dernière, que l'État reprenne la main, que la souveraineté de l'État libanais revienne et qu'on en finisse avec ces guerres qui ne sont pas les nôtres et ces États dans l'État qui nous parasitent depuis tant d'années. Autrefois, c'était les Palestiniens, c'était ensuite les Syriens. Maintenant, c'est l'Iran par le biais du Hezbollah. Le gouvernement libanais, alors il y a deux choses distinctes. Il y a le président de la République. Le président de la République a alterné des déclarations un peu timorées avec des déclarations très fortes. Sur la fin de mon séjour, il venait de faire une déclaration qui était très forte. Donc ça, les chrétiens sont ravis parce qu'ils attendent de la fermeté de la part notamment du président de la République qui, comme vous le savez, est un maronite au Liban. Le gouvernement libanais, il représente toutes les composantes de du Parlement libanais, dont le Hezbollah et les alliés du Hezbollah. Donc le gouvernement libanais, il est un peu neutralisé. Cela dit, le premier ministre libanais, Monsieur Salaf, est un sunnite qui a des positions qui sont appréciées et qui sont régulièrement soutenues, notamment par nos amis des forces libanaises, de Samir Jaja et du parti Qatariat de Sami Gemayel. Voilà. Donc, peut mieux faire. Si vous voulez que je résume l'avis des chrétiens de la rue chrétienne par rapport au gouvernement et au président de la République, peut mieux faire. Tout le monde attend beaucoup plus de fermeté. Hélas, les élections législatives ont été reportées de deux ans, et on attendait beaucoup de ces élections pour qu'une majorité plus claire se dégage au Parlement pour que les choses soient prises en main. Parce que le Liban, la vie a des heures historiques, avec une possibilité par un soutien international d'en finir avec ce qui le prend en otage depuis tant d'années. Et c'est l'occasion à saisir parce que l'occasion ne repassera pas deux fois.
Merci, cher Yann Bali.
On va peut-être rappeler pour les auditeurs que ça intéresse les coordonnées de Chrétienté et Solidarité, comment avoir des informations, oui. Comment devenir parrain.
Alors, on est présent sur les réseaux, sur X, Twitter, sur Facebook, et on a un site internet, chrétientésolidarité.fr. On peut aller dans la rubrique « Nous soutenir », parrainage, et on a également toutes les articles et les comptes rendus que nous avons publiés durant la mission de Chrétienté et Solidarité au Liban. J'ajoute que jeudi prochain, jeudi 21 mai à 19h30, je ferai une conférence échange avec le public sur justement cette mission de Chrétienté et Solidarité de 15 jours au Liban. Je présenterai un certain nombre de vidéos, d'images. Il y aura un certain nombre d'amis libanais qui seront présents. Donc pour les gens que ça intéresse, ce sera au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, jeudi 21 mai à 19h30, métro Maubert Mutualité.
Voilà. Cher Yann, bravo pour votre courage et votre énergie. Félicitations pour cette mission et à bientôt.
Merci Bernard, bonne soirée.
Alors cher Bernard, est-ce que vous avez peut-être quelques propos à ajouter sur la situation au Proche-Orient et la question libanaise en particulier, avant d'aborder un autre sujet?
Non, parce que moi, je ne suis pas allé au Liban, il fallait donc que ce soit Yann qui parle. J'ai pas tellement... Tout ce qu'il a évoqué, j'ai connu ces villages à Ain Ebel, etc. J'évoque ça, d'ailleurs, dans mon livre de mémoire que je viens de publier et dont on va peut-être causer un tout petit peu, mais j'ai été très content, je dois le dire, de voir que la présidente de Chrétienté et Solidarité, que j'ai assumée pendant plusieurs dizaines d'années, ce qui ne me rajeunit pas, a été prise, a été continuée par Yann Bali. Et je préfère, je voudrais aller au Liban probablement cet automne, et j'en parlerai peut-être avec un peu plus de compétences à ce moment-là qu'aujourd'hui. Voilà.
À suivre donc. Alors on va passer justement au sujet de votre dernier ouvrage qui est sorti de presse il y a 2-3 semaines maintenant, je crois, 3 semaines à peine.
Oui, c'est pas si vieux. C'est à Cécile Montmirail peut-être.
Et oui, Bernard Anthony, parce que j'ai eu grand plaisir à parcourir ce livre. D'habitude, c'est moi qui vous interroge.
C'est vrai. Mais et il faut cette quelquefois fois-ci... changer un tout petit peu.
Oui.
Mais le prochain livre, vous continuerez à m'interroger. parce que aussitôt, j'ai des choses qui turbulent dans mon cerveau et je me dis, ça sera bon de le traiter avec Cécile Montmirail. Mais je suis à vous pour répondre à vos questions.
Oui, je pense que c'est un livre important, que ces mémoires que vous nous livrez là, Bernard Anthony, sur cette vie de combattant qui a été la vôtre et qui a commencé tôt. Ce combat pour la France et pour les chrétientés. Et donc, c'est très plaisant de lire ce livre. Alors, on ne va pas tout reprendre, mais quand même, il y a beaucoup de choses de vous, évidemment, dans ce livre, et cette vie trépidante où vous vous occupez, dès le départ, du bien commun de cette France que vous avez servie pendant de nombreuses années et que vous continuez à servir. Alors, il y a évidemment de très beaux portraits de personnes que vous avez rencontrées, et en particulier des combattants qui se sont battus pour la France, que ce soit pendant la Deuxième Guerre mondiale et que ce soit ensuite au sein de Chrétienté Solidarité, du Centre Charlier et du Front National. Je pense que c'est important de rappeler ça, Bernard Anthony, puisque aujourd'hui, souvent dans la presse, on entend des comparaisons qui sont faites entre le Rassemblement national et le Front national. Et ce que vous nous livrez dans ces mémoires, c'est une toute autre image du Front national que celle qu'on essaie de nous dire aujourd'hui. Par exemple, ce que dit et ce que ne cesse de dire Luc Ferry.
Alors, moi, j'ai une estime certaine pour Luc Ferry. C'est un homme intelligent, un homme très, très cultivé. Quand il parle de philosophie, eh bien, je l'écoute avec intérêt. Lorsque il parle de culture antique, de mythologie, je l'écoute avec intérêt. Mais il a le tort de faire, comme d'ailleurs le camarade Darius Rochebain, donc sur
une chaîne d'infos en continu.
Sur une chaîne d'infos en
continu. Sur LCI, pour ne pas la citer.
Pour ne pas la citer. Donc là, il a le tort de vouloir extrémiser le Front National. Les deux hommes, donc, là, commettent, je crois, donc, quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire une interprétation d'une histoire qu'ils n'ont pas connue. Donc, moi, je n'ai rien contre le Rassemblement National. C'est plutôt un parti politique que je regarde avec sympathie. Mais j'assume totalement mes longues années au Front National, même si j'en suis parti du bureau politique en désaccord sur un certain nombre de plans, mais peu importe, ça, c'est du passé. Mais enfin, quand je lis, ou quand j'entends, encore une fois, Luc Ferry, Rochebain, évoquer un Front National d'extrême droite, fasciste, ils vont pas jusqu'à dire nazi, mais certains n'hésitent pas. Moi, comment suis-je rentré au Front National ? Je vais peut-être révéler des choses pour certains jeunes auditeurs, là, que peut-être ils n'imaginent pas. Moi, je suis rentré au Front National parce que je venais du mouvement solidariste français, du mouvement Jeune Révolution. Et que là...
Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs ce que c'était vraiment, en fait ? Parce que je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde.
Oui, c'est vrai. Donc là, j'ai été, ce que je ne renie pas du tout, un militant défenseur de l'Algérie française. D'ailleurs, je m'exprimais pas plus tard qu'aujourd'hui avec des interlocuteurs admirables que j'interrogerai ici même, probablement dans une émission ultérieure, des Kabyles.
Du gouvernement Kabyle en exil, on peut le dire. Ils sont
du gouvernement Kabyle en exil, puisqu'ils sont déjà venus ici. Et je crois que j'ai eu raison de les inviter. Mais vous voyez, ces Kabyles en exil me disaient aujourd'hui... Ouais, mais il y avait tout de même beaucoup de bonnes choses dans l'Algérie française. Mieux, en tout cas, que dans l'Algérie algérienne d'aujourd'hui.
Du FLN et des barbus, oui.
Voilà, et devant laquelle M. Macron est couché. Alors, donc là, moi, qu'est-ce que j'ai vu ? C'est Sirbois qui m'a fait rentrer. L'extrémiste Sirbois, le fasciste Sirbois, l'antisémite Sirbois. Non, Sirbois était né de madame de sa mère, né Lutschmeyer, juif ashkénaze. Jean-Pierre Sirbois ne se cachait nullement d'être juif par sa mère, comme les juifs le sont généralement. Voilà, premièrement. Ah, pourquoi vous ne le dites jamais ça, monsieur Rochebain? Pourquoi vous ne le dites pas, monsieur Faury? Pourquoi vous ne dites pas que le personnage, le numéro 2 du Front National, avait une influence énorme sur Jean-Marie Le Pen?
Et maire de Dreux, ça a été et son élection à la mairie de Dreux, hein, c'est un mot médiatique, si on peut dire.
De Dreux. Alors, donc là, je cite celui-là, mais qui ai-je trouvé au bureau? Parce que très vite, Sirbois a obtenu de Jean-Marie Le Pen de me faire nommer au bureau politique du Front. Et qui ai-je rencontré au bureau politique du Front? Alors, d'abord, Michel de Camaret, héros de légende, héros de la bataille de Normandie, héros du maquis de Saint-Marcel, compagnon de la Libération. Oui, mais ce n'est pas le seul compagnon de la Libération. Alors pourquoi Ferry, vous ne citez jamais cela, le nombre de grands compagnons de la Libération dans le Front National ou de grands résistants? Pourquoi, monsieur Rochebain, est-ce que vous si ignore? Vous êtes vraiment ignore alors, hein, pour ne pas savoir que Michel de Camaret, le héros du film Bataillon du Ciel, donc était un compagnon de la Libération. Pourquoi ne citez-vous jamais qu'il y avait encore Albert Chambon, mon ami Albert Chambon, dont le fils nous écoute peut-être à l'heure actuelle, le fils de Bernard, Albert Chambon, président des anciens Buralwald. Pourquoi ça, on ne l'entend jamais?
Jamais.
Sur CNews, jamais.
Nulle part.
Nulle part. Pourquoi on ne l'entend pas, ça? Albert Chambon a été un admirable président des anciens Buralwald. Pourquoi on n'entend jamais parler de Robert Emerdinger, militant qui s'est battu d'ailleurs avec courage lors du montage de l'affaire de Carpentras? Pourquoi n'en entend-on jamais parler? Pierre Klosterman, le héros du grand...
Le grand cirque.
Le grand cirque.
Grand aviateur.
Aviateur voilà. De légende.
Un as.
Pierre Klosterman, qui s'était déplacé, j'étais tout à fait ému, pour venir me soutenir dans une campagne électorale dans mon département du Tarn. Mais Pierre Klosterman, dont on pourrait, sur lequel on pourrait faire une émission entière, évidemment. Robert Emerdinger, président du Cercle national des Français juifs, courageux résistant, défenseur aussi de l'Algérie française, disons-le, et nous ne pouvons pas avoir honte de cela, mais avec eux, mon ami, mon grand ami qui est devenu président d'honneur de Chrétienté et Solidarité, Jean-Baptiste Biaggi, couvert de gloire pour tous ses exploits. Mais il faudrait faire une émission entière sur Jean-Baptiste Biaggi.
Et évadé, criblé de balles.
Donc là, donc Biaggi, Pascal Arrighi, donc là, on pourrait continuer pendant une demi-heure. Résistant encore André Figueras, André Figueras que j'ai bien connu, c'est même lui le premier que j'ai invité en conférence quand j'étais étudiant dans la bonne ville de Pau. Pierre Sergent, qui lui a été parmi les organisateurs de la manifestation à l'Arc de Triomphe de solidarité avec les étudiants juifs et avec les jeunes gens juifs qui étaient menacés, comme on le sait, par le régime et l'occupant nazi.
Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de grands
noms.
On
peut continuer. Et Louis Alliot, mon ami Louis Alliot, Louis Alliot que j'ai bien connu puisqu'il était dans mon groupe au conseil régional de Midi-Pyrénées. Donc Louis Alliot, lui aussi, comme Sirbois, juif par sa mère, que j'ai bien connu également, on peut continuer comme cela
longtemps.
Longtemps. À Marseille, vous connaissez cette ville, Cécile Montmirail, le résistant Jean Roussel, et on pourrait continuer comme cela. Alors pourquoi jamais ? Je le dis ça avec indignation, et c'est l'honneur de Radio Courtoisie que de me permettre de rappeler des choses comme celle-là. Et alors quelquefois je me dis, mais au Rassemblement National, ils sont quand même, je l'ai dit, je vais le lui redire à Louis Alliot, ils sont quand même quelquefois un peu mous de ne pas y aller plus fort pour rappeler tout cela, le diable.
Oui, parce que systématiquement, en fait, l'extrême-gauche de LFI en particulier, les invectives dans l'hémicycle et dans les médias en disant « parti fondé par des collabos et des Waffen-SS ». Mais la réplique n'est jamais assez forte et n'est jamais assez cinglante. Et c'est vrai que cette mollesse est dommageable.
Elle est très dommageable. Voilà pourquoi j'ai traité du sujet dans mon bouquin de mémoire. Voilà pourquoi j'allais quelquefois traiter sur mon blog. Il suffit de bien noter Bernard Anthony, on tombe sur mon blog. Et donc, voilà pourquoi, comme le disait Simon Leveil, la grande que j'admire énormément, dont je parle aussi dans mon bouquin, il faut peser sur le plateau de la balance qui est le plus haut. Et donc, moi, je m'efforce de peser dans la balance de l'histoire différemment de M. Luc Ferry et de M. Rochebain, dont j'aimerais bien pouvoir dire qu'ils ont simplement péché par ignorance. Mais j'en suis pas tout à fait sûr, parce que je n'arrive pas à croire qu'ils puissent être aussi ignorants sur ce qu'a été l'origine du Rassemblement National, c'est-à-dire la réalité du Front National.
Évoquons juste en passant la mémoire de Roger Olyndre, qui nous a quittés il y a un tout petit peu plus de 6 ans maintenant,
déjà,
et qui, lui, a commencé à résister à peine 16 ans.
Il avait, oui, entre 15 et 16 ans, et il était... L'ami Roger était un héros de légende lui aussi, puisqu'il s'était emparé d'un nid de mitrailleuses allemandes.
Et donc, vers la gare ferroviaire de Bercy, je crois,
si je ne m'abuse. Oui, quelque chose comme ça. Mais Roger était lui aussi quelqu'un. Alors, mais donc, voyez-vous, en fait, on pourrait faire des séries d'émissions sur des héros, comme ça, on peut faire des films. Alors, il y a eu un film sur Tamaret, certes. Je pense encore à mon ami le docteur Jean-Jacques Plat, dans ma bonne ville de Castres. Jean-Jacques Plat, médecin anesthésiste, qui a été un des héros du maquis de Saint-Marcel. C'était un admirable terroriste. Et oui, un admirable terroriste, mon ami Jean-Jacques Plat, terroriste anti-allemand, parce qu'il était spécialiste. Il avait d'ailleurs un calme de chirurgien, et donc là, il a fait des dégâts chez l'ennemi allemand. Et puis, tiens, ça me vient aussi le général de Bénouville.
Qui n'est pas n'importe qui dans l'histoire militaire française.
Qui m'a permis de déjeuner un jour avec lui et le général de Bénouville, Jean-Marie Le Pen. Je ne sache pas que le général de Bénouville était un homme d'extrême droite, un fasciste, oui, de que sais-je encore. C'est dire, vous voyez, à chaque nom que je cite, et donc je ne cite pas tout, hein, mais là, je prends en flagrant délit de dissimulation de la vérité.
Ou de troncage, oui, malhonnête en tout cas.
Cécile Montmirail.
Mais donc c'est important de redécouvrir, et surtout pour les plus jeunes, ces figures du Front National qui ont eu ce passé glorieux. Et c'est aussi un des mérites de votre livre de rappeler ces figures, Bernard Anthony. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre et on y découvre un Bernard Anthony, peut-être que d'autres ne connaissent pas, mais que nous avons la chance de connaître. Et notamment, la question du canular dans votre vie. On vous connaît comme un théoricien, comme un combattant. Vous êtes toujours battu pour la France contre les dangers qui la menaçaient, que ce soit le communisme, l'islam. Mais bon, au gré de la lecture de ce livre, on voit qu'en fait, vous êtes un joyeux drill, Bernard Anthony. Et donc, le canular, alors, il y en a beaucoup dans ce livre. Et alors, il y en a un qui m'a particulièrement amusé, celui que vous avez réalisé au moment de la première manifestation contre les JO du Goulag. Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs, rappeler ce qu'il s'est passé à ce moment-là?
Oui, alors j'avais eu cette idée de ne pas laisser passer dans cette abomination de Jeux olympiques à Moscou, au pays du Goulag. Hein, le pays du Goulag sur lequel, dont le grand Solzhenitsyn a fait son premier livre, Une journée d'Ivan Denisovitch. Donc là, nous étions le petit groupe de militants de Chrétienté Solidarité déjà, donc avait décidé de ne pas laisser passer cela. Alors, bien sûr, j'ai été très vite très soutenu, par exemple, par l'abbé Pistre, le pape du rugby. L'abbé Pistre était connu du monde du rugby parce qu'il assistait à chaque tournoi, match du tournoi des Cinq Nations, à côté, avec son fauteuil, à côté de celui de la reine Elisabeth. Et lorsque me vient l'idée qu'il faut organiser une protestation internationale contre cette ignominie d'organisation des Jeux, c'est-à-dire l'idéal de notre civilisation, c'est l'adresse, etc. Donc là, avec Jean-Pierre Cohen, je n'étais pas seul dans l'organisation, avec Roland Gaucher, avec d'autres encore, nous organisons un cross un jour autour de l'ambassade d'Union soviétique pour pouvoir arborant des maillots non au jeu du Goulag. Et là, donc, la police parisienne, alors là, quand on touchait, toujours pareil, il ne faut pas toucher à l'époque à l'ambassade, enfin, à l'Union soviétique. Là, le gouvernement français est très sourcilleux. Alors nous nous retrouvons donc en tenue de cross, mais j'avais dit pas de papier d'identité, rien. Donc la police nous court après, c'est comme...
Vous êtes pris.
Nous sommes pris les uns après les autres, on joue à trappe-trappe. Et on nous amène au commissariat de police de la rue de la Faisanderie. C'était marrant d'ailleurs, parce que immédiatement à côté, c'était le siège du groupe Pierre Fabre dans lequel je travaillais. Donc, nous nous faisons coffrer les uns après les autres. Et là, nous sommes partis dans une pièce du commissariat. Et dans cette pièce, il y a quelqu'un qui semble d'apparence hindoue, qui aimait des mélopées, qui pleure. Et là, donc, le commissaire de police le fait rentrer, donne des instructions, parce que là, il a une gueule d'immigré. Il faut donc être particulièrement vigilant et ne pas avoir un mauvais comportement.
Et là, gentiment, vous vous proposez d'aider, et donc de traduire. Vous ne connaissez pas ce talent, d'ailleurs.
Et oui, parce que là... Là, donc, le commissaire de police me dit j'en ai marre, mais est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Vous êtes un intellectuel. Mais si, monsieur le commissaire, on est plein de bons sentiments pour la police, parce que vous faites un travail. Vous voyez ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas bien, enfin. Vous vouloir nous empêcher de protester contre les Jeux du Goulag, ça suffit. Enfin, c'était extraordinaire. On faisait passer les uns après les autres devant je ne sais quel argoussin, mais donc il n'était pas question que l'on puisse exhiber des papiers d'identité, alors donc, puisque nous n'en portions aucun. Donc là, c'était un dimanche matin, le dimanche matin se déroule, et là, le commissaire de police, au bout d'un moment excédé, dit « Allez, il dit ça à ses policiers, mettez-les tous dehors, j'en ai marre. » Et l'hindou en question, qui ne savait pas parler le français 10 minutes avant, dit « Monsieur le commissaire, je vous remercie de votre accueil. » Alors là, explosion, injure à la police.
Vous avez oublié de dire que pendant un moment, en tout cas, vous avez essayé de traduire ces propos
pour
le commissaire.
Oui. Donc, je suis un collaborateur pendant quelques minutes.
Zélé.
Collaborateur zélé de la police française. Et donc, voilà.
Et vous avez inventé 100% de la traduction ?
Et, oui, bien sûr.
200%.
D'autant plus que l'homme en question était militant de Chrétienté Solidarité, en réalité.
Alors, d'ailleurs, c'était Gagest. On l'interrogeait, d'où venez-vous ? Il répondait, du métro. Mais non, d'où venez-vous ? Du Punjab. Bon, donc, c'était... Les policiers n'en pouvaient plus. Donc, et lorsque... il s'appelait... Je ne dévoile rien aujourd'hui, il y a prescription. Il s'appelait Jean-Marie Neminadan. C'était un éminent mathématicien qui travaillait à l'aérospatiale.
Voilà. Alors, c'est étonnant que vous évoquiez le sujet des canulars. Parce qu'un livre est paru récemment... Mais livre gauchiste, hein, c'est aux éditions de La Découverte, qui revient sur le fameux canular organisé par Brasillach et ses copains, c'est celui des Poldèves.
Ah, des Poldèves. Alors,
bien
oui,
évidemment,
oui,
tout le livre est consacré au fait que vous voyez bien que l'extrême droite de tout temps a utilisé le faux et le mensonge à des fins de propagande politique, alors que là, c'était vraiment un canular avec un effet absolument bidonnant, absolument hilarant. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire deux mots des Poldèves quand même, parce que vous êtes un peu dans cette tradition-là.
Eh bien, c'était un canular monté par l'Action française, très précisément, qui donc visait à alerter l'opinion sur le sort tragique que risquait un peuple persécuté, les Poldèves. Et donc là, tout d'un coup, il y a un mouvement qui se fait en faveur de ce peuple jusque-là inconnu.
Puis des députés, des hommes politiques qui sont sollicités surtout pour prendre position.
Oui, oui, sur les Poldèves. Et donc, mais par exemple, les canulars. Moi, j'ai fait souvent, même au Parlement européen, le canular de la poche trouée. Le canular de la poche trouée. Pourquoi ? Parce que par une poche trouée, on peut faire passer des boules puantes. Et comme en face de moi, dans l'hémicycle, au Parlement européen, il y avait des idiotos gauchistes pleins de haine, bouffés de haine, j'allais me promener juste dans leurs travées, très respectueusement, et là, glisser le long de ma jambe des boules puantes qui faisaient effet deux minutes après. Et je peux dire qu'un jour, j'ai eu un peu de remords sur le moment, parce que le président Flimelin était en train de se trouver mal, parce que ces boules puantes, c'était pas marrant. Mais je crois, oui, j'ai fait beaucoup de canulars dans ma vie, et je demeure d'esprit canulareste. Donc, je n'ai pas organisé le fait des Poldèves, mais mon maître Léon Daudet avait été un des initiateurs de ce genre de choses. Donc, on pourrait encore continuer à raconter, oui, des choses de ce genre.
Il y a eu un canular, mais je laisse les auditeurs découvrir ça dans votre livre aussi, sur les crustacés en Europe. Mais il faut pas tout dire,
faut pas
parce
tout
qu'alors
dévoiler,
là, pour le coup...
Une autre fois. Attendez, je crois que...
On va faire une coupure. Pour le Bobino.
Pour le Bobino.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Alors nous sommes avec vous, Bernard Anthony, ce soir, et nous parcourons avec vous le livre de mémoire que vous avez commis et que vous nous faites le cadeau. Alors, vous avez parlé des grands hommes de droite que vous avez rencontrés au sein du Front National, tous résistants, ou en tout cas pour une grande partie d'entre eux. Mais, chose plus étonnante, dans ce livre, vous nous parlez aussi d'autres rencontres d'hommes d'État de première importance que vous avez rencontrés. au cours de votre vie et vous avez donc rencontré parmi eux François Mitterrand. Alors vous avez rencontré deux fois François Mitterrand, une fois à Toulouse et une fois à Strasbourg. Et vous avez été, vous nous faites part dans votre livre de ces rencontres. Alors d'abord peut-être un mot sur cette première rencontre à Toulouse qui vous unit peut-être autour de l'antigaullisme.
Oui, c'est-à-dire, à cette époque-là, pour quelqu'un comme moi, qui n'avait pas digéré, je ne l'ai jamais digéré d'ailleurs, la tromperie gaulliste sur l'Algérie, donc l'oubli des atrocités infligées à nos compatriotes pieds-noirs, juifs, musulmans, etc. Donc ça a été mon enfance. Et je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas digéré la manière dont on a largué l'Algérie française. Et vous voyez, j'en parlais encore aujourd'hui avec d'admirables Kabyles, partisans de l'indépendance de la Kabylie, mais qui comprennent tout à fait le sentiment que j'ai pu avoir, et d'autant plus fort que je ne suis pas pied-noir et que je ne suis jamais allé en Algérie. Mais cette ignominie, des journées d'Orange, cette ignominie, etc., et ces ordres du général de Gaulle, parce que on n'a que de Gaulle à la bouche dans la classe politique aujourd'hui, je suis excédé. Là aussi, il faut rétablir la vérité, il faut quand même peser sur le plateau de la balance qui est le plus haut. Donc, donc ces ordres donnés à l'armée française de ne pas intervenir, ça, c'est sans égal dans notre histoire. Donc là, en effet, à l'époque, je préférais amplement François Mitterrand au général de Gaulle. Je n'oubliais pas que François Mitterrand avait défendu lui aussi l'Algérie française. Alors, je n'étais pas un inconditionnel de François Mitterrand, mais donc là, je réagissais en fonction de cette actualité politique tragique que j'avais connue. J'ai donc rencontré pour la première fois François Mitterrand à Toulouse. Il avait fait une belle réunion au Capitole. Le Capitole, c'est la mairie de Toulouse. Et donc là, après, j'avais pu échanger un petit bout de conversation avec lui. L'homme était pétillant, il était courtois.
Nous avions apprécié l'artiste du verbe qu'il était.
Tout à fait.
Alors, ensuite, vous l'avez rencontré une deuxième fois. Alors, vous nous racontez ça. Ça se passe à Strasbourg. Et là, vous êtes avec Jean-Marie Le Pen.
Je suis en effet avec Jean-Marie Le Pen. C'est le moment de la dernière visite de François Mitterrand, donc au Parlement européen. C'est sa dernière visite parce qu'il il souffrait. On le sentait bien. Et il a levé...
Oui, vous décrivez que... Il y avait des tensions et des crispations dans son visage.
Voilà. Donc là, il y a, après son intervention devant l'Assemblée plénière, dont je n'appréciais pas tout, faut-il le dire. Je n'ai jamais été mitterrandiste ou mitterrandien ou mitterrandophile, mais j'admirais en effet l'artiste, car c'était un bel orateur. Mais donc là, après son intervention devant le Parlement, il y a une réception. L'ensemble du Parlement est convié à un dîner au Palais des Rohans à Strasbourg. Et là, je suis à une table, on m'a placé, donc une table que préside Jean-Marie Le Pen. Et ayant été installé, au bout d'un certain moment, nous entendons un certain brouhaha. Il y a une porte qui s'ouvre non loin de nous, c'est par là que François Mitterrand va arriver. Moi, je le vois déjà assez près de moi, à quelques mètres, et là, François Mitterrand, qui a l'œil vif, voit qu'il y a une table que préside son vieil ami Jean-Marie Le Pen. Je pèse mes mots, son vieil ami, mais oui, il se connaissait bien de la 4e République. Donc, c'est comme ça. Et donc là, il se dirige vers notre table. Catherine Trottmann, qui est redevenue maire de Strasbourg aujourd'hui, donc essaie de le dissuader de se diriger par là. il y a des caméras.
Oui, elle repousse les caméras.
Elle repousse pour pas les que... caméras, etc., etc.
Laisser de traces de cette rencontre.
Mais Mitterrand, lui, il veut saluer son vieil ami Jean-Marie. Et donc, cela donc, donne la scène suivante. Il arrive. Alors, comment tu vas, Jean-Marie ? C'est à la syllabe près. Comment tu vas, Jean-Marie ? Et il s'assied. Et il lui tape sur l'épaule. Donc là, tu vas voir, c'est pas facile la politique, il lui dit. Hein. Voilà, j'étais assez... Présente-moi tes amis.
Il demande à Jean-Marie de présenter
faire le tour
les
de
personnes
table, oui.
Et de faire le tour de table.
Mais oui, un petit tour de table, en effet. Et donc là, Monsieur Blot, mais oui, je connais, j'ai entendu... Monsieur, alors il y a quelques... Bernard Anthony, mais oui, dit Mitterrand malicieux. Bon. Et donc, voilà, c'est cette scène qui était extraordinaire. Aujourd'hui, on ne l'imagine pas beaucoup, et pourtant, elle fut.
François Mitterrand ne considérait pas qu'il avait affaire là à un ramassis de nazis et de fascistes.
Hein. Il savait fort bien à quoi... S'en tenir, c'était évident.
Alors, il y a d'autres personnages comme ça, de grands personnages de l'État français que vous rencontrez, et parmi eux, il y a Edgar Faure.
Ah, Edgar Faure, il était pétillant, truculent, menteur, bretteur, comme mousquetaire de Cyrano de Bergerac. C'était sur la terrasse, une des terrasses du Capitole à Rome, pour le 30e anniversaire du traité de Rome. Et là, je suis sur la terrasse et on boit du prosecco à l'abondance, que sais-je encore. Et là, je suis avec Jean-Marie et arrive tout près de nous Edgar Faure. Moi, je n'avais jamais rencontré Edgar Faure, mais là, donc Jean-Marie alpague Edgar Faure. Edgar, quel plaisir de te voir, Edgar Faure. Ah, Jean-Marie, cher Jean-Marie. Donc, c'était comme ça. Et là, Jean-Marie, ah mais Edgar, oui, je voulais te présenter mon ami Bernard Anthony, parce que lui aussi, il s'occupe du bicentenaire de la Révolution française, qui s'occupe beaucoup, mais je crois que vous n'avez peut-être pas les mêmes angles d'analyse. Et là, ah, on va voir, il se sautait plus que moi encore, on va voir ça. On va voir ça. Ah, je suis heureux de vous rencontrer, me dit Edgar Faure. Il était très, très, très...
Oui, il présidait, je crois, les...
Ah, mais il est... Pardon, j'aurais oublié.
Oui, oui, le bicentenaire de la Révolution.
Comité d'organisation du bicentenaire de la Révolution française. Or, il y avait eu un prédécesseur. C'était Barouin. C'était le Barouin, ancien grand maître du Grand Orient de France.
Michel Barouin.
C'était Michel Barouin. Et donc, Michel Barouin était mort dans une explosion de son avion en Afrique. Là, donc, il y a eu beaucoup...
Explosion suspecte,
oui.
C'est pas le sujet ce soir.
Mais c'est pas le sujet.
Oui.
Je ne suis pas compétent pour dire quelle était la nature de l'explosif qui avait été... J'ai cru savoir... qu'on avait mis de la glace dans le réservoir. Mais enfin, cela n'est pas toujours est-il que Michel Barouin avait été tué et qu'il avait été remplacé par Edgar Faure. Donc là, Edgar Faure me dit « Mais nous allons travailler ensemble ». Je lui dis « Mais enfin, monsieur le Président, vous ne les pensez pas, je ne suis pas un grand admirateur de la Révolution française. Je considère que ça a été globalement une abomination. Et je suis toujours sur cette ligne, bien des années plus tard. Mais vous avez tort, vous avez tort. Je pense que nos points de vue peuvent se rejoindre. » Il était très accommodant, très, très gentil d'ailleurs. Et donc là, je lui dis « Mais écoutez, en plus, je lui dis « Vous voyez, ça n'a pas porté chance à votre... prédécesseur Michel Barouin. »
Ça, c'est votre côté taquin, c'était pour lui faire peur. C'était parce que c'est bien connu que les francs-maçons sont toujours un peu superstitieux.
Superstitieux, oui.
Là, en tout cas, il était connu que Edgar Faure était assez superstitieux. Et Il me dit, oh, ne votez pas cela, ne votez pas cela, c'est trop tragique. Je lui dis, c'est la vie, monsieur le président. Et donc, c'est comme ça. Or, là, eh ben, Edgar Faure n'a pas beaucoup attendu, lui non plus, pour passer de l'autre côté.
Alors, c'est à cette occasion, Bernard, dans votre livre, que vous republiez un texte que je crois très important. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, je dois dire. Page 159, la proposition de résolution de Bernard Anthony au Parlement européen sur la commémoration de la Révolution française. Je pense que c'est un texte que les jeunes gens doivent lire, car c'est un réquisitoire contre la Révolution française et qui n'a pas été, qui n'a pas été contredit, en fait. Vous avez proposé ce texte et jamais il n'y a eu de réponse sur tous les points à charge que vous aviez souligné contre la Révolution française.
Il n'y a pas eu, en effet, de tentative de réfutation. Et c'est même cela qui m'a donné ensuite le goût pour élaborer un dictionnaire de la réplique, hein, qui a eu son succès aussi, édité chez le même éditeur, qui a de la chance avec moi, à savoir notre ami Richard Haddad, édition de Godefroid Bouillon. Mais donc, cette réfutation de la Révolution française a été, je pense, quelque chose de nécessaire, parce que j'ai fait effort pour qu'il y ait une argumentation non pas partisane, non pas sectaire, mais tout simplement fondée sur la réalité de ce que fut la Révolution française, avec toutes ces abominations, mais on ne va pas en traiter ce soir, évidemment.
Oui, alors, il y a aussi dans ce livre « Tous vos voyages », Bernard Anthony, il y en a eu beaucoup à travers la planète, des voyages qui étaient toujours, qui avaient toujours pour objectif d'aller soutenir des peuples qui eux-mêmes se battaient, que ce soit en Amérique latine, au Proche-Orient, au Liban, bien sûr, et bien sûr en Europe. Et c'est aussi un aspect très important, je pense, de ce livre de mémoire qui montre que c'est à travers ces voyages que vous faites, ces rencontres, que vous vous formez, vos théories, et qu'elles sont donc ancrées dans le réel. Voilà. Il n'y a pas chez vous un théoricien qui part d'une idée et qui spécule sur cette idée. À chaque fois, vous vous confrontez au réel, à ce qui se passe sur le terrain, et vous avez, à l'issue, des initiatives, soit pour protéger, soit pour encourager. Yann Bali l'a rappelé tout à l'heure concernant le Liban, c'est suite à un voyage que vous avez l'idée de parrainer des enfants au Liban, et donc nous savons que ces parrainages durent toujours, puisque désormais Yann Bali a pris votre suite pour leur mise en œuvre. C'est quelque chose d'important pour vous d'être allé. Peut-être vous pouvez nous parler d'un des voyages. Alors, le Liban, c'est souvent, comme on vient d'en parler, je vous propose de parler des voyages qui ont été importants dans la lutte contre le communisme, qui, pendant longtemps, quand même, s'est abattu sur l'Europe et sur notre monde. Ce n'était pas gagné d'avance et vous avez été toujours sur le terrain.
Je veux remercier d'ailleurs Pierre-Henri, puisqu'il est là, parce qu'il m'a fait une généreuse préface dont je lui céderai. Je dois dire aussi que vous l'évoquiez tout à l'heure, je n'ai pas fait de l'aventure individuelle. J'ai voyagé beaucoup avec mon vieux camarade de combat Alain Sanders. Alain Sanders, sur lequel je veux porter un témoignage, parce que 50 ans environ de compagnonnage pendant lequel nous n'avons jamais eu une querelle. On a eu quelquefois des dissensions, des différences d'analyse, mais avec Alain, tout était toujours, c'est quelqu'un de très chercheur d'accommodement, alors que c'est un homme de grande conviction, mais donc dans un voyage, dans ce genre de voyage, avec Alain, c'était ô combien agréable, parce qu'il était un homme de compromis au véritable sens du mot, pas de compromis sur les idées.
Un
homme de compromis, et je pourrais raconter beaucoup de choses. Alors, c'est lorsque j'ai été élu au Parlement européen en 1984, pour la première fois, que immédiatement Évidemment, j'ai été très fasciné par ce qui se passait au Liban, dont on ne va pas en reparler, mais c'est là que j'ai voulu un premier voyage au Liban, en compagnie d'ailleurs d'un autre député qui n'est plus aujourd'hui, Olivier d'Ormesson. Donc là, ça a été mon voyage au Liban. Et ensuite, il est vrai, ben, chaque fois qu'un pays où qu'il y avait une cause qui me semblait digne d'être soutenue, j'essayais de la rejoindre. Donc là, ça serait un peu fastidieux d'évoquer tout cela ici, mais c'est important parce que on pèse que un certain nombre de choses du passé éclairent le présent. Par exemple, lorsque je vais pour la première fois à Moscou avec Alain Sanders, qu'est-ce que nous faisons à Moscou? Eh bien, on va faire le tour de la Loubianka. La Loubianka, c'est le lieu où le régime donc, assassiné, torturé.
Torturé. Les opposants.
J'étais très ému de marcher autour de cette monstruosité de la Loubianka. C'était là le fief de la Tchétcha. La Tchétcha que Poutine a réhabilité, enfin je pourrais raconter cela, on le trouve dans mon livre aussi, donc l'abomination donc, de la continuité poutinienne de la Tchétcha. Donc là, c'était un premier voyage. Et puis après ça, en Lituanie, c'est le choc des cultures. On quitte Moscou. Moscou, à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, je crois savoir, était une ville sale, c'était une ville pauvre.
Non, désormais, c'est mieux tenu.
Aujourd'hui, c'est mieux tenu, c'est évident. Donc là, on va en Lituanie. Et là, on se sent chez nous. C'est une ville Vilnius, c'est une ville hanséatique. Là, il y a eu la révolte de 1991. Les Lituaniens se sont battus. 14 d'entre eux ont été écrasés sous les chars d'assaut du régime. Donc, là, toutes de choses à raconter. Et puis, il y a aussi...
Vous aviez d'ailleurs fait permis qu'intervienne un des grands résistants, dont je ne peux pas dire le nom parce qu'il est trop compliqué à prononcer pour moi, au fameux procès du communisme, au procès international que vous avez organisé pour juger les crimes communistes, que nous attendons toujours d'un point de vue officiel, mais vous avez l'honneur d'avoir mis ça en place. Et il me semble que le président de...
Le président de la Lituanie était Vytautas Landsbergis. C'était un homme admirable que nous avons trouvé là dans son bunker encore assiégé, hein, parce que c'était le moment où ça basculait. Donc nous rencontrons le président Landsbergis nous allons ensuite continuer nos pérégrinations. Donc là, je sais là que le communisme peut être vaincu. Et le président Landsbergis me dit « Oui, votre idée de procès est nécessaire. » Et moi, dès que je peux avoir une meilleure liberté de mouvement, parce qu'il était encore assiégé à cette époque-là, j'ai publié des photos où d'ailleurs je suis devant l'entrée de l'immeuble qui hébergeait des soldats de l'armée rouge qui étaient encore là. Donc Vytautas Landsbergis, lui, va tenir sa parole. Il va organiser en Lituanie le procès du communisme. Notre action n'a pas été tout à fait inutile.
Non, elle a été très utile. Et on voit à chaque fois comment ces voyages non seulement nourrissent votre réflexion, mais sont l'occasion de faire des actions spécifiques qui vont servir pédagogiquement à alerter ou à faire prendre conscience aux Français des dangers qui les menacent et de la réalité. Alors pour le communisme, c'est sûr que tous les voyages que vous avez faits à travers la planète, mais aussi chez les contrats, en Lituanie, en Pologne, en Croatie, eh bien, ça permet aussi d'avoir des témoins qui viennent raconter ce qui se passe, de nourrir des amitiés très profondes et qui ensuite, lorsque le mur va tomber, vous allez avoir donc parmi vos amis des gens qui prennent le pouvoir dans les pays d'Europe, que ce soit le président de la Diète de Pologne, que ce
Le président de la Diète de Pologne, que je veux évoquer ici, parce que c'est un vieil ami, c'est Marek Jurek. Hein, je l'ai connu militant anticommuniste pauvre, hein, avec une femme admirable. Ensuite, ça a été Solidarnosc, ça a été de la rencontre avec Lech Walesa. On dit comme ça en polonais, je ne sais pas parler beaucoup le polonais, mais pour nous, c'est Walesa. Donc là, c'est vrai, c'est une rencontre extraordinairement émouvante parce que nous sommes sur le chantier naval Lénine. Ça n'est pas rien parce que c'est Lénine lui-même qui avait prédit, qui disait que la classe ouvrière, si elle était laissée à elle-même, se rapprocherait spontanément de la bourgeoisie. Donc là, il y a des textes de Lénine que j'ai souvent commentés lorsque je donnais des cours à des militants de force ouvrière pour qu'ils sachent affronter la CGT. Donc là, nous sommes en Pologne et nous sommes reçus à Gdansk par le père Jankowski, le curé de la paroisse Sainte-Brigitte. Et là, tout est combiné pour qu'apparaisse tout d'un coup Lech Walesa, que l'on a donc infiltré près de nous. Et c'est une rencontre, au début, on ne comprend pas bien. Que veut me dire Walesa? Il parle du communisme, de la soupe de poisson. Je n'entrave que dalle, pour parler clair. Et puis, ça y est, hurrah! Donc, Lech Walesa veut m'expliquer que pour revenir du communisme, c'est très dur. Il me dit, on peut aller du poisson à la soupe, mais on ne revient pas de la soupe au poisson. Ça, c'est de l'humour polonais. Et j'ai flotté un tout petit moment. Je ne sais plus ce que j'ai trouvé comme formule. Walesa a éclaté de rire, il m'a embrassé. Et il m'a fait Robotnik d'honneur. Je suis Robotnik d'honneur.
Des chantiers de Gdansk. C'est pas mal, ça.
Je suis Robotnik d'honneur des chantiers navals Lénine de Gdansk.
Oui, à une époque où, je le rappelle, la menace soviétique était toujours ô combien présente en
Mais
Europe.
Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est un article de Jeanne Smith. La propagande soviétique renaît sous Poutine, la Russie revisite sa mémoire, et donc...
Puisque toute personne qui soutient Mémorial est criminalisée désormais.
Et songeons que le mouvement, l'association Mémorial, qui était l'association destinée à évoquer ce qu'avait été le goulag et les crimes du communisme. Cette association, eh bien, elle a pu fonctionner après que l'effondrement du système communiste. Aujourd'hui, elle est interdite.
Seulement elle est interdite, mais toute personne qui la soutiendrait serait considérée comme un ennemi, et donc c'est un crime.
Et ça, donc, Mémorial qui avait été organisé par le général Dranchenko et l'académicien...
Soukharov.
C'est son nom en effet. Pardonnez-moi.
Sakharov.
L'académicien Sakharov. Donc, cette association mémoriale a pu fonctionner pour évoquer les abominations du goulag et du système soviétique. Et ben ça, c'est fini.
C'est fini.
Mais rappelons, parce que je vois, rappelons que il y a des statues de Staline qui sont à nouveau inaugurées aujourd'hui, donc dans ce qui redevient l'Union soviétique. Et ça fait partie aussi de ces combats. Donc il y aurait tant à dire. Je voudrais dire un mot de la Contra, parce que la Contra, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Avait été un précurseur
Donc, il faut peut-être pour les plus jeunes auditeurs préciser, rappeler voilà, où c'était
de quel
la
contexte
contrat.
Il voilà. s'agit.
Oui. Oui, c'est vrai. Donc c'était le contexte, c'était tout simplement celui de la prise du pouvoir donc, par les communistes sous l'étiquette sandiniste. Les sandinistes étaient les castristes, somme toute. C'est, tout ça, c'était le même mouvement. Donc,
latino-américain, Nicaragua.
Nicaragua. Mmh. Donc là, nous avions été, j'avais été à l'époque, j'avais eu un précurseur, en l'occurrence Thibaut de la Tournée, mon vieil ami Thibaut de la Tournée, qui avait été, lui, faire un petit tour au Salvador. Et puis ensuite, donc, il nous a dit il faut aller voir ce qui se passe donc, en Amérique centrale. Et là, donc, ça a été ce voyage donc, avec beaucoup de péripéties, avec notre vieil ami Dounaïef. Il est décédé aujourd'hui, paix à son âme. C'était quelqu'un de merveilleux, d'origine russe blanche. Donc là, c'était avec Thibaut Sanders. Nous sommes reçus à Tegucigalpa, c'est un nom, ça ne s'invente pas, c'est à Tegucigalpa, capitale du Honduras. Mais je raconte un tout petit peu quelques anecdotes sur cela. Et nous arrivons un soir en pleine banlieue, un peu pourrie, enfin bon, c'est pas de la grande villégiature. Et nous arrivons chez le colonel Gomez, qui était le pilote, le principal pilote de la Contra. Il pilotait aussi bien des avions que des hélicoptères. Nous sommes reçus chez lui. Il y a là sa femme, qui, elle, est une admirable señorita de type espagnol. Ses deux enfants, qui, eux, sont des pilotes comme leur père, mais comme le rhum couvre à flot, le rond, ça s'appelle comme ça, en accent hondurien ou nicaragouien, comme ça picole un tout petit peu trop, au bout d'un moment, un dialogue métaphysique s'instaure, hallucinant. Donc, un des deux enfants tient pour appeler son père papa, et l'autre tient pour appeler son père mi-coronel. Pas colonel, coronel. C'est comme ça qu'on dit à cette époque-là. Et puis, donc, tout ça sous l'œil attendri de leur mère, ils vont commencer à se donner des gifles. Enfin, le colonel laisse faire. Et puis, au bout d'un moment, il a le palge de l'un et l'autre par le callback, et ça se calme. Donc, ça, et puis ensuite, nous allons rejoindre Rancho Grande, à savoir la base arrière au Honduras, de la Contra, c'est le mouvement des contre-sandinistes.
Les anticommunistes locaux qui se sont battus, mais
et là,
les armes à la main.
Et là, donc, je vais rencontrer, je vais avoir un moment de grande inquiétude parce que les leaders locaux de la Contra nous demandent à Sanders, Thibault, Dounaïef et moi, si on ne veut pas accompagner une colonne de la Contra qui va aller chercher des réfugiés sur les bords du Rio Toto. Je passe là sur des choses. Moi, je n'ai aucune envie. Je ne suis pas un héros. Donc, je préfère rester à la base arrière. Et là, Thibault et Sanders disent « Mais nous, on y va. » Je pense que j'ai bien fait de rester à la base arrière. Parce qu'au bout d'un moment, leur sort n'était pas évident. Alors je passe sur donc, la nécessité dans laquelle je me suis trouvé, d'abord de trouver du gazoil pour l'hélicoptère qui n'en avait plus, et puis ensuite donc, de récupérer mes camarades qu'on est arrivé à sortir de leur enfer vert. Et là, donc, une anecdote aussi, donc, j'ai appris une chose, c'est que dans bien des endroits, la jungle, ça sent pas bon. Et donc, quand je vois descendre de l'hélicoptère les camarades Sanders et Thibaut de la Tournée, qui ont été souvent à ce micro ici, donc là, je fais venir un tuyau d'arrosage pour traiter de leur état sanitaire qui n'était pas bon sur le moment.
Douteux, oui.
Voilà. Donc, tous ces voyages, en effet, qui nous permettaient d'avoir une idée nette de ce qu'étaient les choses.
Oui, alors, peut-être un dernier aspect que j'aimerais souligner dans votre vie, Bernard Anthony, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est assez singulier. C'est rare, un homme politique de votre envergure qui ne se soit pas enrichi. Voilà. Pour beaucoup, certes, le combat est important, mais c'est aussi un moyen d'avoir accès à des avantages matériels ou financiers. Et ce qu'on peut voir en suivant votre histoire, c'est que pour vous, les places, c'était fait pour combattre. Et tout a toujours été investi dans les voyages, les rencontres, les soutiens. Il n'y a pas d'enrichissement personnel chez Bernard Anthony, et je crois qu'il faut le souligner. Et pourtant, vous avez eu aussi une très belle rencontre dans votre vie, qui est celle d'un grand patron français, Pierre Fabre, et de son entreprise, puisque vous avez été remarqué par Pierre Fabre, et qu'il vous a, dans des conditions quand même assez étonnantes, recruté dans son entreprise. Il vous voulait, alors que, a priori, vous n'étiez pas fait pour entrer dans une industrie pharmaceutique. Je crois que c'est un homme qui a beaucoup compté pour vous.
Énormément. Il y a eu deux hommes qui ont beaucoup compté dans ma vie, dont Gérard, dans le domaine religieux, que vous avez très bien connu, Cécile Montmirail.
Je me souviens avec une certaine émotion de la peine qui a été la vôtre quand on nous a annoncé la mort de notre ami, et de votre en particulier à vous, ami Don Gérard, et de la difficulté que vous aviez à écrire le mot que les moines vous aviez demandé de dire, pas parce que vous ne saviez pas dire quelque chose sur Don Gérard, évidemment, mais parce que l'émotion vous tenait et que c'était compliqué pour vous d'avoir à faire cet exercice que vous avez fait. Quand même. Alors, revenons à Pierre Fabre.
Alors, j'ai eu la chance m'a souri. Et entendons-nous bien, j'ai toujours été honorablement payé, que ce soit dans l'entreprise ou ensuite donc au Parlement européen, ça me suffisait amplement. Mais donc, j'ai la chance, j'étais professeur dans un collège libre de ma ville de Castres. Et là, le hasard des choses aussi, j'ai enseigné dans la classe où avait enseigné le petit père Combes. Donc, voilà. Donc là, je suis dans ce collège. J'ai organisé un groupe à Castres déjà. Ça s'appelle Centre Régional d'Information. Je me m'ennuie un tout petit peu. Le métier d'enseignant me passionne, mais quand même, j'aspirais un peu à autre chose. Et j'ai la chance, un soir, le frère de Pierre Fabre, Jean, me dit « On va aller dîner chez mon frère, Bernard. Il est désireux de vous rencontrer. » Et là, donc, effectivement, je tombe sur Pierre Fabre, qui a été un très grand chef d'entreprise, allé dans le moment des à Castres et dans le Tarn en général. Ce que les gens pensent, il bénéficie 13 ans après sa mort, ça fait 13 ans et un mois environ, il bénéficie d'une reconnaissance, d'une admiration très, très grande. Je me trouve chez Pierre Fabre, qui me dit au bout d'un moment, il était un grand psychologue, il me dit « mais vous ne vous ennuyez pas un peu donc, dans l'enseignement libre ?» Je lui dis, monsieur, oui, mais
il faut bien manger.
Il faut bien manger. Il me dit, bon, c'est très bien. Alors, je vais dire à Jean qu'il prenne rendez-vous, hein, parce que, n'est-ce pas, racontez-moi un peu. Vous avez été étudiant, je crois savoir, et vous avez été un tout petit peu engagé dans la politique. Je lui dis, oui, donc vous savez faire des journaux, vous savez faire des appels. Vous savez donc comment on peut donc dynamiser une société, une entreprise. Je lui dis, oui, enfin, tout ça, oui et non. Oui. Bon, vous pourriez donc voir Madame Martin, n'est-ce pas, Jean, mardi matin. Et c'est ainsi que je suis engagé environ en 20 minutes de discussion avec Pierre Fabre. Et puis ensuite, c'était un très grand patron, c'était pas toujours rigolo chez lui. Hein. Mais donc là, j'ai appris sur le tas et je ne m'en repens pas du tout, du tout. Et surtout, donc, j'ai été confronté à une tentative de pénétration de la CGT dans notre usine de production de soie près de Castres. Là, je pense que j'ai pas été mauvais face à la CGT, ce qui fait que dans la continuité de cette action au sein de l'entreprise Fabre, j'ai créé ma propre cellule d'organisation, de formation pour des syndicalistes, pour des cadres, pour des chefs d'entreprise. C'est un métier qui m'a passionné et ça n'est pas sans hésitation. Mais j'avais choisi, j'étais un militant politique, ce n'est pas sans hésitation, disais-je, que j'ai suivi Jean-Marie Le Pen, mais le métier que je faisais au service des entreprises me passionnait, il faut le dire aussi. Quoi.
Oui, vous n'étiez pas un homme politique professionnel, en fait.
Je n'étais
pas.
Vous
étiez un militant politique, vous l'êtes toujours d'ailleurs, mais vous avez aussi été dans le monde de l'entreprise, ce qui rend vos analyses beaucoup plus percutantes. Alors, vous écrivez page 87. À l'époque, il n'y avait pas de hiérarchie parallèle à la hiérarchie professionnelle dans l'entreprise, que ce soit celle de diplômés de certaines écoles ou celle de syndicats. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
C'est que parmi les causes de dysfonctionnement des entreprises, il y a le chevauchement de responsabilités. Il y a ce qu'on peut appeler les hiérarchies parallèles. Qu'est-ce que c'est une hiérarchie parallèle ? C'est un pouvoir non assorti de responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne rend pas compte des décisions qui sont prises, parce que là, on est entre anciens d'une grande école, parce qu'on est entre soi, finalement. Et donc là,
vous parlez de hiérarchie parallèle oui, parmi les syndicats.
Mais oui, parce que dans beaucoup, comme je connaissais d'autres entreprises dans lesquelles on me demandait d'intervenir, j'étais chez Fabre 4 jours par semaine, et puis Pierre Fabre m'avait libéré sur ma demande un 5e jour pour aller travailler au service de l'aérospatial, devenu Airbus Industrie. J'ai été aussi administrateur de l'Union des industries de la chimie. En fait, j'ai fait un métier passionnant dans les entreprises. Et donc là, j'ai fait en sorte de pouvoir être efficace face à ce qui était des éléments de subversion de l'entreprise. Bien sûr, les syndicats révolutionnaires, Toulouse, grande ville gauchiste, je connais, j'ai servi. Donc là, cela, et puis donc des connivences qui ne sont pas au grand jour, ce qui n'est pas sain. Il faut que le fonctionnement des hiérarchies soit transparent. Et je pense que là, j'ai pu agir efficacement au service des entreprises de mon pays et notamment dans Midi-Pyrénées. Donc, mais par exemple, alors, chez Fabre, il y avait peut-être une hiérarchie parallèle. C'était celle des joueurs de rugby. Parce que Pierre Fabre aimait passionnément le rugby. Il avait lui-même été un joueur, un grand joueur. Et donc là, il était avide de savoir la progression des joueurs de rugby qui avaient été engagés dans l'entreprise. C'est ainsi que j'ai été un grand ami, moi, si tu ne fais pas le gabarit, de Gérard Chollet, le légendaire pilier du 15 de France de rugby. Je me suis donc intéressé au rugby, mais parce que là, Pierre Fabre avait des tendresses pour ses joueurs de rugby. Ça, donc, il y avait...
Oui, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait de connivence Lui avait une tendresse, mais c'est pas... même chose que ces hiérarchies parallèles.
C'était les hiérarchies parallèles de type politique, de type maçonnique, de type que sais-je encore.
Alors,
il nous reste 3 minutes. On va quand même rappeler les références de ce dernier livre de Bernard Anthony qui s'intitule très sobrement, mais ça dit tout, Mémoire, au pluriel bien évidemment.
Avec une bonne préface qui éclaire bien, je vous en remercie. et une postface qui est très, très chaleureuse aussi, qui a été rédigée par mon ami Alain Sanders. Mais il est d'usage que dans les quatre de couverture, on ne signe pas. Donc, mais je le révèle, la 4 de couverture, elle est de la plume d'Alain Sanders et la préface, elle est de vous, cher Pierre-Henri.
Alors, aux éditions donc Godefroy de Bouillon, Bernard Anthony, Les Mémoires, on les trouve sur le site de l'éditeur, on le trouve sur le site aussi de Chrétienté Solidarité, je crois, on peut appeler pour se le procurer, et puis bien évidemment, dans les bonnes librairies sur commande et sur Internet, bien évidemment. Il nous reste 2 minutes à peine avant la fin de cette émission, peut-être le temps de dire un mot sur, vous vouliez dire un mot du pape, Bernard, en moins de 2 minutes.
Oui, alors là, j'avais été immédiatement terrassé lorsque j'avais vu paraître le précédent Saint-Père, François. Donc j'avais dit à Elisabeth, mon épouse, il a une gueule de pizzaïolo. C'était gentil. Et je n'ai, pour être franc, jamais été un grand admirateur du pape François. Quand j'ai vu apparaître Léon XIV, d'abord, j'ai vite analysé, il avait choisi le prénom de Léon, et c'était un bon choix, parce que tout le monde pensait à Léon XIII, mais il y avait eu aussi, Léon XIII n'était pas seulement donc, un pape de la doctrine sociale, il était aussi le pape, le grand combattant de la franc-maçonnerie. Hein, donc là, c'était de bonne augure. Donc, et puis, oui, Pierre-Henri.
Une minute encore.
Ah, bon, et donc j'ai été plutôt séduit par Léon XIV. Donc aujourd'hui, j'ai compris mes amis kabyles qui étaient un peu peinés, qui les parlaient. Donc, qui n'est pas parlé en français en Algérie, parce que ces Kabyles indépendantistes sont très admirateurs de la France. Ils aiment la France. Ils m'ont dit, quand même, on aimerait dire au Saint-Père qu'il aurait dû en Algérie parler en français. Voilà, j'expose aujourd'hui leur petit chagrin, alors qu'ils ne sont pas tous des catholiques. Mais,
loin de là.
Comme le disait Maurice Aurès, il faut savoir terminer une grève.
Exactement, et on termine cette émission. Chers auditeurs, à très bientôt.
Merci Pierre-Henri.
Venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française dirigé par Bernard Anthony. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 13 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.